Retour sur le congrès de Versailles ce soir au téléphone sonne. Retour sur le contenu du discours d'Emmanuel Macron devant les députés et les sénateurs cet après-midi. Une sorte de discours de la méthode du quinquennat à venir. Le chef de l'État a confirmé sa volonté de mener à bien certaines réformes institutionnelles et cela sans perdre de temps. Proportionnelle, réduction du nombre de parlementaires, droit de pétition, limitation du cumul des mandats dans le temps, suppression de la Cour de justice de la République, des annonces. Mais peu de précision. Une chose est sûre, Emmanuel Macron est un homme pressé qui a entendu les critiques, même si c'est pour mieux les rejeter. Faux marbre, bonapartisme surjoué, européisme bêlant, répond ce soir Jean-Luc Mélenchon qui a boycotté la séance. Alors on va revenir sur cette intervention sur le fond et sur la forme avec nos invités. Le politologue Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Bonsoir Brice Teinturier.
Bonsoir.
Le constitutionnaliste Dominique Rousseau, professeur à Paris 1. Bonsoir Dominique Rousseau.
Bonsoir.
Et Frédéric Métezeau, chef du service politique de France Inter. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous.
Pour les interroger ou pour donner votre avis, tout simplement deux solutions. Un message sur franceinter.fr ou sur Twitter avec le mot dièse Telson ou alors le téléphone 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, une première question, celle d'Isabelle qui nous appelle de Dijon. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir à tous.
Est-ce que vous avez suivi l'intervention tout d'abord cet après-midi, peut-être à la télévision?
Non, je ne l'ai pas suivi. J'ai suivi vos journaux, différents journaux, donc j'ai eu tous les éléments. Mais en liminaire, j'aurais souhaité quand même qu'on replace le sujet dans le cadre de la réforme constitutionnelle de juillet 2008. Afin de faire mieux comprendre aux auditeurs, ce qui permet au président de prendre la parole devant les représentants de la nation quand il le souhaite.
Parce que pour vous, c'est une bonne chose que le chef de l'État s'exprime ainsi ?
Oh ben, je ne sais pas. Moi, j'applique la loi constitutionnelle de 2008. Il a le droit de le faire, il fait ce qu'il veut.
Voilà, merci beaucoup. Merci Isabelle. On va demander peut-être à Dominique Rousseau, qui est professeur de droit constitutionnel, d'où vient cette réforme? C'est Nicolas Sarkozy?
Alors c'est le président Nicolas Sarkozy qui effectivement a fait voter la révision constitutionnelle en 2008 et qui, parmi les différentes propositions, a fait adopter celle permettant au président de la République de s'adresser en personne aux parlementaires réunis au Congrès à Versailles. Alors, jusqu'à présent, tous les chefs d'État, dans toutes les républiques françaises, tous les chefs d'État pouvaient s'adresser aux parlementaires. Mais ils le faisaient par un message qui a été lu par le président de l'Assemblée nationale et qui a été lu par le président du Sénat. Alors cette interdiction pour le président de la République de venir lire en personne son discours, ça remonte en fait à la Troisième République. C'est Adolphe Thiers qui était président de la République par intérim et qui, à l'époque, était en même temps député. Et Adolphe Thiers était un orateur remarquable, ce qui fait que lorsqu'il parlait, il retournait l'Assemblée. Et un de ses petits copains, le duc de Broglie, à l'époque, qui a profité de son absence une journée pour faire voter une loi interdisant désormais au président de la République de prendre en personne la parole devant l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, ça vient pas, c'est pas la théorie de la séparation des pouvoirs, c'est pas la raison pure qui a conduit à, ce sont des circonstances politiques particulières.
Frédéric Métezeau.
J'ajouterai deux autres circonstances. Une politique particulière, pour reprendre l'expression du professeur Rousseau, c'est qu'à partir de 2002, nous sommes entrés dans le quinquennat. Le temps politique étant plus court, il fallait que le président de la République ait plus d'occasions, plus d'opportunités pour s'exprimer. Ça, c'est la première. Et puis la deuxième, c'est un contexte. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut jamais oublier le contexte médiatique dans lequel se font les évolutions politiques. Dans les années 60, le général de Gaulle invente la conférence de presse parce qu'il y a la télévision. Ben en 2008, on invente ce discours parce qu'on est à l'heure des télévisions d'information continue et il faut ce genre d'événement qui permet de borner, de jalonner le quinquennat. Nicolas Sarkozy était à l'époque, Emmanuel Macron aussi, un président de son temps.
Et ça a été utilisé deux fois, Brice Teinturier, depuis l'adoption de cette réforme de Nicolas Sarkozy. Une fois Nicolas Sarkozy qui est allé devant le Congrès, une autre fois François Hollande.
Oui, tout à fait. Et je crois que c'est d'autant plus important là que nous avons un président de la République qui entend ne pas s'adresser via les médias trop souvent ou trop directement aux Français. Donc il y a une solennité, il y a aussi des moments où il compte expliquer quelles sont les bases du quinquennat qu'il entend conduire. Et je crois que c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Et on voit bien que l'usage de la parole présidentielle est un usage très maîtrisé, qui se veut aussi très contrôlé, si ce n'est rare dans le temps, en tous les cas adapté à des moments précis. Et là, c'était devant la représentation nationale réunie en congrès.
On va poursuivre évidemment, mais on repart au standard de France Inter. Cette fois, c'est Georges qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonsoir Georges.
Bonsoir à tous.
Alors, suite à la première question, on a expliqué d'où venait cette réforme. Vous, vous posez les questions par rapport aux États-Unis, c'est ça ?
Je pose la question de l'américanisation de la vie politique française, qui me paraît galopante et que M. Macron semble accélérer. Il y avait déjà les primaires, qui ont d'ailleurs fait flop. On voit M. Macron qui chante la Marseillaise, les yeux mi-clos mystiquement et la main sur le cœur. On le voit inviter Trump le 14 juillet, on le voit convoquer le Congrès et s'adresser au Congrès, donc devant les deux chambres, à l'américaine, pour une espèce de discours de l'Union qui court-circuite son Premier ministre. Donc là, il y a une distorsion, il me semble, par rapport à la Constitution qui dit que c'est le Premier ministre qui détermine, enfin le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Et tout ça, quand même, aussi, avec des contenus derrière. Parce que il y a aussi, par exemple, le fait que l'anglais devient envahissant dans le discours du gouvernement, quoi. On comprend même plus ce qu'ils se disent entre eux, tellement c'est truffé d'anglicisme.
Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question, Georges. Hein.
Mais juste pour finir sur un mot, simplement, est-ce que il n'y a pas un projet au-delà de la forme, qui est quand même d'américaniser de plus en plus notre pays, y compris sur le plan social, enfin bon, modèle anglo-saxon, OTAN et compagnie, quoi. Voilà.
Merci Georges pour cette question à multiple entrée, parce qu'effectivement il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a les institutions, il y a le fonctionnement du pays, il y a aussi le style du président. On va peut-être commencer par là, Brice Teinturier, sur le style Macron qui aurait tendance un petit peu à imiter Barack Obama dans les mises en scène, la photo présidentielle, la photo officielle, etc.
Oui, on dit souvent ça, et il est vrai qu'on peut trouver un certain nombre d'analogies entre le style d'Emmanuel Macron et ce que faisait Barack Obama. Malgré tout, moi j'ai plutôt le sentiment que Emmanuel Macron revient à l'esprit de la Ve République, et une forme d'exercice de la fonction présidentielle, on dit plus verticale, en tous les cas, qui use d'un certain nombre de symboles pour réaffirmer une fonction présidentielle distincte de la fonction de Premier ministre. Et je crois que c'est aussi ce qu'on a vu cet après-midi, avec un président qui n'est pas allé dans le comment. Le comment, on l'aura demain à travers le Premier ministre, mais qui a fixé le cap. Et il est assez paradoxal d'avoir entendu très souvent le reproche fait soit à Nicolas Sarkozy d'être dans une frénésie de prise de parole, soit à François Hollande de ne pas donner le cap, et de constater que là, quand on a un président de la République qui cherche au moins à poser les fondamentaux de ce qui va être son quinquennat, on a d'autres critiques qui arrivent sur le thème de l'américanisation de la vie politique française. Et je comprends vraiment la parole et le témoignage de votre auditeur, parce qu'il y a d'autres symboles sur le langage, sur une façon de faire qui peuvent donner ce sentiment, qu'il y a également le contenu de la politique qui est aussi, je crois, dans le collimateur de notre auditeur. Mais il me semble que c'est quand même beaucoup plus conforme à l'esprit de la Ve République, en réalité, qu'à une américanisation de la vie politique.
Frédéric Mettezo ?
Parmi ce que disait Georges, il y a effectivement des choses qui peuvent nous faire penser à cette américanisation. Alors il y a la main sur le cœur en chantant la Marseillaise, ça fait hurler Alain Finkielkraut par exemple. Il y a aussi, on peut citer les primaires, hein, qui étaient
tout et n'importe quoi. Lui.
Une forme. Il y avait les primaires qui sont effectivement entre guillemets importées des États-Unis. Il y a ce statut de la première dame que voudrait créer Emmanuel Macron. D'ailleurs, est-ce que ça s'appellera statut de la première dame ou du premier conjoint ou de la première conjointe? Parce que peut-être qu'un jour le conjoint sera un monsieur, donc il faudra voir.
En tout cas, il n'en a pas parlé aujourd'hui.
Non, il n'en a pas parlé aujourd'hui. Donc, il a parlé des pères fondateurs de l'Europe aujourd'hui. Donc, il y a quelques éléments qui peuvent faire effectivement penser à cette américanisation. Ensuite, le fait d'inviter Trump au 14 juillet, Donald Trump, pardon. Bon, ça, c'est normal d'inviter un président d'un pays étranger, surtout 100 ans après l'engagement des soldats américains dans la Première Guerre mondiale. Et il y a une chose, en revanche, où je suis tout à fait d'accord avec Brice Teinturier, c'est que Emmanuel Macron, je pense, n'a absolument pas envie de changer la Constitution dans un sens qui la
flébirait.
Elle est parfaite pour lui. Il n'est pas responsable devant le Parlement. Il ne peut pas être renversé. Il ne peut pas être démis de ses fonctions, sauf à vraiment quelques conditions très très précises. Il ne peut pas y avoir d'impeachment. Et puis, globalement, en France, le Parlement est beaucoup moins puissant qu'aux États-Unis et j'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron veuille lui donner plus de puissance, plus de prérogatives. Oui, plus de puissance, non.
Dominique Rousseau, sur l'aspect constitutionnel des choses, peut-être la comparaison avec les États-Unis, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Mettezo ?
Pas tout à fait. Il n'y a pas d'une imitation de... Il faut arrêter de comparer la France avec les États-Unis, ou à la limite, il vaut mieux imiter Barack Obama que Donald Trump. Hein, mais... Il faut éviter la comparaison dans la mesure où les États-Unis, c'est un État fédéral. Et par conséquent.
Et le discours sur l'état de l'Union s'inscrit dans ce.
Absolument.
Dans
donc
ce
nous ne va pas faire un état de l'Union puisque nous ne sommes pas un état fédéral. De même pour les primaires sont organisées sur toute une année, état par état. Donc on ne peut pas comparer les primaires en France et les primaires, et les primaires aux États-Unis. Américanisation, non. Je redis que le message du président de la République au Parlement, après l'élection du président de la République et après l'élection de l'Assemblée nationale, est une tradition. Je rappelle que François Mitterrand, il n'était pas américaniste, François Mitterrand a fait un discours, a adressé un message à l'Assemblée nationale le 8 juillet 1981 à 11h du matin et à 15h, le même jour, Pierre Mauroy, Premier ministre, a fait sa déclaration de politique générale. Et que disait le message de François Mitterrand ? Je le résume, mes 110 propositions sont désormais la charte du gouvernement et mes 110 propositions sont désormais la charte du législateur. Donc, parlementaires, appliquez mes 110 propositions. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? De nouveau, il y a simplement que Emmanuel Macron est venu le dire.
Il y a quand même
personne.
La forme solennelle d'un président qui se déplace et de tous ces parlementaires qu'on fait venir à Versailles. C'est pas rien, ça c'est quand même quelque chose. Surtout, alors pardonnez-moi de poser la question, mais pour quelle annonce particulière, Brice Teinturier ? Qu'est-ce qu'on a appris cet après-midi ? C'est un petit peu la répétition du programme présidentiel d'Emmanuel Macron, globalement.
Oui, mais c'est quand même important. On a appris un certain nombre de mesures, d'engagements pour des mesures qui certes avaient déjà été évoquées pendant la campagne présidentielle, mais qui vont façonner différemment notre vie politique. La réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, ce n'est pas une petite mesure. L'introduction d'une dose de proportionnelle, ce n'est pas non plus quelque chose de
tout à fait anodin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était des choses qui avaient été dites au moment de la campagne.
Oui, mais je crois que ce qui est important, c'est que finalement, ce qui a fait aussi le succès d'Emmanuel Macron, c'est la volonté de transformer la façon dont la vie politique fonctionnait dans notre pays. Et ce que je retiens quand même prioritairement du discours de tout à l'heure, c'est qu'il remet l'accent sur ces éléments-là. Donc pour le coup, il y a à la fois une cohérence et une continuité, mais aussi une précision, un engagement supplémentaire sur la direction donnée et sur un certain nombre de priorités. Le calendrier, pas totalement anodin non plus, puisqu'il s'est engagé à aller vite, y compris s'il devait passer par une procédure référendaire. Donc là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'important qui a été annoncé. C'est pas un discours pour rien. Ce n'est pas un discours qui ne ferait que redire des choses déjà dites. C'est un discours qui pointe des priorités, notamment dans le fonctionnement de notre vie politique et nos institutions.
Un petit mot, Frédéric Mettezo, de la façon dont ce discours a été accueilli par les parlementaires présents, parce que parfois, certains orateurs ont droit à des applaudissements régulièrement, au gré de ce qu'ils disent. Pas forcément été le cas, là.
Non, il n'y en a pas eu beaucoup. D'abord, c'est toujours difficile dans un congrès de voir comment réagit l'hémicycle parce que les parlementaires ne sont pas placés par groupe, par couleur politique, ils sont par ordre alphabétique.
Ah oui,
donc,
vous
ne pouvez plus
avoir.
Avec
les copains, quoi.
Voilà, vous pouvez plus avoir, comme dans un stade de football, vous savez, la tribune Est et la tribune Ouest. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons, je ne sais plus quel est le pourcentage de nouveaux parlementaires. Le cadre est tout de même assez solennel, assez écrasant, assez impressionnant. Ouais. Donc, on se dit, vous savez, c'est comme quand on est au théâtre, est-ce qu'il faut applaudir là ou à une cérémonie religieuse, est-ce qu'on se lève ou est-ce qu'on s'assoit? Là, nous étions dans une grande cérémonie laïque et républicaine. Sans doute que le cadre n'a pas aidé. Et puis, dernière chose, il y a eu quelques moments un petit peu comiques. Par exemple, quand on était à peu près à une heure de discours, donc c'était censé être la durée du discours, Emmanuel Macron a terminé 1h28, voilà, exactement. Quand Emmanuel Macron a terminé une phrase qui pouvait ressembler à une péroraison, des gens ont commencé à applaudir. Du coup, d'autres se sont dit, on va suivre. Et puis non, c'était pas terminé. En fait, tout ça est assez codifié, mais les codes, ça s'apprend.
Dominique Rousseau, sur les annonces qui ont été faites, on va revenir sur chaque point tout à l'heure. Pour vous, il y avait de la matière cet après-midi ?
Ah, il y avait de la matière. Contrairement à ce qu'on entend ou ce que peut-être vous avez dit tout à l'heure, autant Emmanuel Macron respecte effectivement la logique des institutions de la Ve République et dans une perspective gaulo-mitterrandienne, autant si les réformes qu'il a annoncées ce soir sont votées, ça va transformer radicalement le fonctionnement des institutions. La proportionnelle, s'il y a la proportionnelle selon la dose, ça veut dire qu'il n'y a plus de majorité automatique à l'Assemblée nationale. Et s'il n'y a plus de majorité automatique à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il faudra négocier. Négocier des accords, négocier des majorités d'idées, comme disait Edgar Faure, et vous changez la pratique. La Constitution, c'est important, mais c'est Michel Debré qui le disait, la véritable constitution d'un pays, c'est la loi électorale. Vous supprimez le scrutin majoritaire et vous mettez la proportionnelle, alors ça va dépendre de la dose, vous changez totalement le fonctionnement des institutions. Le scrutin majoritaire, c'est des députés godillots. Le scrutin proportionnel, c'est des députés qui s'assument comme législateurs et contrôleurs. Et vous changez la pratique des institutions. Le droit de pétition pour les citoyens, ça va permettre aux citoyens de demander l'inscription, par exemple, à l'ordre du jour du Parlement d'un certain nombre de propositions législatives. La transformation du Conseil économique et social qui va devenir l'institution unique de la consultation. Je pense qu'il y a là, vraisemblablement, l'influence de Jean-Paul Delevoye, qui était le président l'ancien président, et qui était le conseiller d'Emmanuel Macron. Donc, ça va changer profondément le fonctionnement, diminuer le nombre des lois pour donner de la place au contrat. Hein. On retrouve, il a parlé de république contractuelle. C'est très important. On retrouve l'inspiration et de Chaban-Delmas dans son discours de la nouvelle société du 16 septembre 69. On retrouve Mendès France. On retrouve Rocard. L'autonomie, l'humanisme, la confiance dans la société civile. Il y a véritablement, si ces réformes sont votées, je dis bien si ces réformes sont votées.
On a appris quand même à se méfier, parce que la proportionnelle... Absolument. Hein, c'est tout le monde ou presque.
Oui, mais là, il l'a annoncé. Il a annoncé.
Non, je crois qu'il y aura quelque chose sur la proportionnelle. Il peut pas annoncer lors d'un discours aussi important l'introduction d'une dose de proportionnelle et ensuite ne plus le faire. En revanche, c'est la question de la dose de proportionnelle qui est fondamentale, parce que dans l'esprit de ce qu'il a annoncé aujourd'hui, on a plutôt le sentiment qu'il s'agit de mettre un peu de proportionnelle pour qu'il y ait une meilleure représentation des différentes sensibilités politiques du pays. Mais justement, un peu peut-être pour ne pas transformer véritablement le fonctionnement et l'esprit de la Ve République. Donc on peut s'attendre à ce que on reste sur un scrutin majoritaire qui soit la dominante et qui ait simplement un petit peu plus de respiration. Si c'est cela, il y aura une meilleure représentation au sens de reproduction de la société et de ses sensibilités, mais il n'y aura pas une transformation en profondeur du fonctionnement de la vie politique.
Et on est d'accord, Dominique Rousseau, qu'il n'y a pas besoin d'une réforme de la Constitution pour changer le mode de scrutin.
C'est une loi, donc il n'y a pas besoin de modifier la Constitution pour changer le mode de scrutin, et je suis d'accord, tout va dépendre de la dose. Est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 20, jusqu'où ça ira.
Et puis, il y a autre chose de très important, c'est quand on annonce qu'on va réduire le nombre de parlementaires, ça veut dire qu'il va falloir revoir les circonscriptions, donc de retailler de nouvelles circonscriptions, et ça c'est un enjeu aussi extrêmement important, parce qu'en fonction du type de redécoupage que vous faites, vous pouvez là aussi avantager certains territoires ou certaines sensibilités politiques ou pas.
On a justement Alexis qui est au téléphone et qui veut nous parler de la question du nombre de parlementaires. Oui. Bonsoir Alexis, c'est à vous.
Bonsoir, je vous entends là...
C'est magique.
Le nombre de parlementaires, c'est un faux problème, parce que c'est pas le nombre de parlementaires qui est en jeu, qui est décisif. C'est les lois qu'on vote à l'Assemblée. Et je trouve que M. Macron démarre très mal ses réformes. Ou alors il doit faire un référendum, parce que avec tout ce qu'on nous annonce, en fait, sur le plateau des grandes références, tout ça, mais je trouve que c'est un peu antidémocratique, tout ça.
Pour vous, c'est pas ça l'essentiel, c'est ça?
Et comment je veux dire, ils prennent pas le taux d'abstention des gens qui votent pas, ou qui votent pour les extrêmes. Et je crois que c'est très dangereux. Alors...
Alexis. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On va peut-être poser la question à Brice Teinturier, qui s'occupe de ses praphistes. Peut-être qu'Alexis est un petit peu un praphiste dans l'âme, je ne sais pas.
Alors, peut-être que réduire le nombre de parlementaires va justement satisfaire une partie de la population qui considère qu'il y a de l'inefficacité, de la gabegie, et que pour réconcilier les Français avec leur système politique, il faut en passer par cela. C'est un reproche récurrent de la part des Français, hein, qui consiste à dire il y a des privilèges, mais il y a aussi un train de vie et un nombre de parlementaires qui est inutile. Donc je crois que, ne serait-ce que pour cela, c'est quelque chose que je mettrais plutôt dans la colonne favorable à la démocratie, plutôt que antidémocratique. Maintenant, il est vrai, vous avez raison monsieur, il est vrai que le discours ne porte pas sur le contenu là. Et c'est aussi une forme de respect de la division des fonctions entre le Premier ministre et le Président de la République. Le Président de la République fixe le cap, le Premier ministre va dire comment il va parvenir à ce cap, et là on rentrera dans le dur des lois, des réformes, des propositions, et on verra bien si effectivement elles permettent de remettre dans le champ politique tous ces abstentionnistes que vous avez rappelé télé et qui sont effectivement extrêmement nombreux, qui traduisent un rapport très, très distancié maintenant à notre vie politique.
Frédéric Mettezou.
Il y a un autre travail important du Parlement que Emmanuel Macron souhaite valoriser ou revaloriser, c'est celui de contrôle et d'évaluation des lois déjà votées et puis l'évaluation du travail de l'exécutif. Il a dit que les grandes lois devraient être évaluées tous les 1 à 2 ans. Là, pour le coup, il y a un côté très, très entrepreneurial, très, très managérial et puis aussi la possibilité donnée
et même des anciennes lois.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Des anciennes lois. Alors là,
ne donne pas satisfaction. On pourrait même
voilà. Alors après, à qui ça ne donne pas satisfaction et pour quelles raisons, c'est toute la question. Et c'est peut-être aussi ce qui peut inquiéter notre auditeur Alexis. Quelles seraient les lois qui ne donnent pas satisfaction? Chacun voit la satisfaction à sa porte.
Une question, Dominique Rousseau, par rapport à tout ce qui a été annoncé. Donc réduction du nombre de parlementaires, réduction d'un tiers pour les 3 assemblées, limitation du cumul des mandats dans le temps pour les parlementaires. Il y a cette histoire aussi de droit de pétition qu'il souhaite mieux prendre en compte. Avant de revenir en détail là-dessus, petite question sur la façon dont ça doit être adopté par le Congrès. Il a laissé entendre qu'éventuellement ça pouvait passer par un référendum. Est-ce qu'il peut y avoir un package général, pardon pour l'anglicisme, de toutes ces réformes ou est-ce qu'il faut y aller au cas par cas?
Alors, les deux sont possibles. Les deux sont possibles, mais si on comprend bien le discours du président de la République, ça sera un ensemble. Et donc, un groupe de travail autour du ministre de la Justice va se mettre en place pour faire des propositions à l'automne. Ensuite, il y aura un débat à l'Assemblée nationale et un débat au Sénat. Il faut que le texte de la réforme, de la révision constitutionnelle soit adopté en termes identiques et par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Je vous rappelle qu'il y a des élections sénatoriales en septembre, donc il faudra attendre l'élection sénatoriale. Et ensuite, effectivement, le président de la République aura le choix entre faire ratifier la révision par le Congrès ou par le référendum. Tout va dépendre finalement de la majorité, puisque pour que la révision soit ratifiée, il faut qu'il y ait la majorité des 3/5 au Congrès, où il est sûr de l'obtenir, et à mon avis il passera par le Congrès, où il voit que les députés freinent ou les parlementaires freinent pour la réduction des mandats, et à ce moment-là il passera par référendum.
Brice Teinturier.
Oui, je crois que dans ces annonces, il y a, et dans ce discours, il y a une obsession qui est l'obsession de l'efficacité. Et pour cela, il faut aller à la fois vite, mais il faut aussi prendre des mesures qui permettent de mieux travailler. Et par exemple, l'argumentation autour de la réduction du nombre de parlementaires par Emmanuel Macron tout à l'heure, elle s'appuie sur cette idée que le Parlement travaillera mieux si les élus sont moins nombreux, mais ont davantage de personnes qui peuvent les assister dans leur travail de contrôle ou d'élaboration de la loi. Et on voit bien que, de ce point de vue, Emmanuel Macron, il le dit d'ailleurs avec une formule assez méchante, cherche à s'opposer à la fois à l'agitation, dit-il, qu'il y a pu y avoir dans des quinquennats précédents, ou à l'immobilisme. Et Nicolas Sarkozy et François Hollande sont clairement désignés. Et ça nous montre à quel point il veut aller vite et être efficace, parce qu'il sait très bien qu'il peut ensuite basculer eh bien, dans l'agitation stérile ou dans l'immobilisme qui vous revient en boomerang très très rapidement.
Alors il a sévèrement critiqué les prédécesseurs hein, au détour de pas mal de phrases. Il n'apprécie pas non plus beaucoup les critiques de l'opposition. Ça, on a compris ça cet après-midi, Frédéric Mettezeau.
Oui, pour ce qui est des députés communistes, insoumis, pour ces parlementaires UDI, il y en a eu quelques-uns, et écologistes, il a parlé de désertion. Tout de même, le mot est fort.
Il a parlé aussi d'opposition purement théorique, d'effet de tribune, hein, voilà.
Voilà, il se souvient aussi, avec ses mots très durs, de ce qu'il a vécu pendant le vote de la loi dite Macron, la loi Macron de libéralisation de l'économie et d'assouplissement du code du travail et d'un certain nombre de normes, où dans les couloirs, il le racontait à l'époque où il parlait encore aux journalistes, il racontait que dans le couloir des parlementaires de droite et du centre lui disaient « nous sommes d'accord avec vous », mais qu'arrivé en séance, il ne votait pas parce qu'effectivement, il y avait ces oppositions théoriques et de principe.
Une question de Martine qui nous appelle de Fontenay-aux-Roses à propos de, justement des députés qui ne sont pas venus aujourd'hui. Bonsoir Martine.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci de prendre ma question. Alors tout à l'heure, Brice Teinturier parlait de réconcilier les Français et le Parlement. Moi, je me demandais l'effet que va faire sur les Français l'attitude des députés. Alors il y a la France insoumise, les députés communistes et je crois un député UDU qui ont fait grève aujourd'hui de leur travail de parlementaire. Et je pense que ça contribue à l'antiparlementarisme. Et plus précisément, je voulais savoir s'il est prévu une sanction financière pour ces députés qui ont fait grève. Moi, j'ai fait beaucoup grève dans ma vie, et quand j'ai fait grève, on m'a systématiquement retenu une journée de salaire. Donc, je voulais savoir ce qui était prévu pour le cas de ces parlementaires qui ont fait grève aujourd'hui.
Merci, Martine. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de faire grève hein, dans le cas des parlementaires, mais en tout cas, pour cette absence, est-ce que vous savez, Dominique Rousseau, si, quel est le règlement des assemblées ?
Non, à ma connaissance, il n'y a aucune sanction financière prévue pour absence au Congrès, en tous les cas. C'est un peu différent à l'Assemblée nationale.
C'est deux règlements intérieurs différents. Il n'y a pas de règlement intérieur spécifique au Congrès.
Pour le Congrès.
Il y a une autre question aussi dans ce qu'évoque Martine à l'instant, qui est de savoir comment cette absence, ce boycott voulu de la part des, notamment des députés de la France insoumise, peut être perçu par les Français et s'il va être compris et même approuvé par une partie d'entre eux, ou au contraire être perçu négativement et nourrir du coup aussi une forme, parce qu'il nourrirait une forme d'antiparlementarisme. Moi je crois qu'aujourd'hui, il y a dans ce pays d'abord des blocs qui sont extrêmement différents, mais il y a un désir qui est pas unanime, mais qui est majoritaire, de donner sa chance à ce nouveau gouvernement. Et que la posture consistant à, dès le départ, écarter délibérément toute capacité, même d'écoute, dans un moment aussi important et aussi solennel, ne sera pas forcément très bien acceptée, je fais en tous les cas cette hypothèse, par la très grande majorité de nos concitoyens. Il y a des Français qui sont résolument et dès maintenant dans une opposition à ce gouvernement. Il y a 33% environ de Français qui nous disent « je m'oppose à ce gouvernement », mais s'y opposer ne signifie pas qu'on approuve le fait de ne même pas écouter ce que dit le président de la République au moment de l'annonce de ce que vont être les grandes lignes de son quinquennat.
Il y a quand même aussi la question du statut de l'opposition, de la façon dont l'opposition a été traitée ces derniers jours à l'Assemblée. Et ça, c'est une question qui peut interroger. Il y a eu la question des questeurs, etc. Peut-être que pour la France insoumise, c'était aussi une façon de se rappeler au bon souvenir de la majorité, là, aujourd'hui.
Oui, certainement. Mais je crois que pour la France insoumise, comme pour le Front National, l'idée est de, dès le départ, de bien montrer qu'il n'y aura aucune concession et qu'on sera dans un combat politique extrêmement important, en dépit de la faible représentation politique des oppositions, parce qu'elles sont fragmentées et différentes, ces oppositions. Mais une fois qu'on a dit ça, et qui est tout à fait légitime, les oppositions peuvent être là pour s'opposer, et elles ont le droit évidemment de choisir leur mode d'opposition, il ne me semble pas, en revanche, que se comporter de cette façon dès le début soit quelque chose qui sera forcément immédiatement mis à leur crédit. Je crois que c'est plutôt sur des points durs et précis que les Français comprennent qu'il y ait une opposition, pas dans une attitude de principe a priori.
Oui, oui, qu'on soit prêt, on repart au standard.
Alors, ils choisissent leur mode d'opposition, mais c'est leur argumentation qui pose problème, parce que dire qu'ils se comportent, que Macron se comporte comme un pharaon ou comme un Bonaparte, c'est totalement décalé par rapport à la réalité de son comportement, qui est plutôt mitterrandien. Gaulo-mitterrandien, et c'est décalé par rapport à son discours. Il a quand même dit dans son discours que l'esprit qu'il animait, c'était l'esprit girondin. C'était le contrat. C'est-à-dire l'inverse de Bonaparte, l'inverse du jacobinisme. Donc, il y a un décalage, il y a une argumentation en plus. On a beaucoup reproché à Emmanuel Macron de ne pas parler aux journalistes depuis qu'il a été élu. Mais sa première grande déclaration publique, il la réserve à qui ? À la représentation nationale réunie dans ces institutions, le Congrès. Donc il y a quelque chose de paradoxal dans l'argumentation. Hein, ils peuvent critiquer la réforme du droit du travail, ils peuvent critiquer la prolongation de l'état d'urgence, ils peuvent critiquer le contenu de la politique, ça, et évidemment. Mais là, l'argumentation me paraît complètement décalée par rapport à ce au projet ou à la vision qui est portée.
Alors, il y a Alain qui veut participer au débat. Il nous appelle de Bourg-en-Bresse. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir Claire. Très, très fier et très heureux de vous parler, ma journaliste préférée d'Inter.
Oh là là, on s'en va, alors. C'est ma fête aujourd'hui.
Non, je vous le dis avec beaucoup de respect. Je vous le dis avec beaucoup de respect parce que je suivais le 13h et vous êtes vraiment la meilleure de votre
antenne. Ah bah, je vous embrasse.
Non, ma question, moi, c'est la liberté de la presse. Je me fais beaucoup de soucis pour la liberté de la presse. Dans les propos qui ont été rapportés à 16h, 17h et 19h dans les journaux d'Inter, le président de la République veut vraiment avoir la mainmise sur les journalistes qui font leur travail, les vrais journalistes. Et c'est un petit peu dommage parce que, bon, on se rend compte par expérience que tous les vrais journalistes qui ont fait des enquêtes, à la sortie, ils avaient raison. Que ce soit France Inter avec Benoît Colomba, que ce soit Mediapart, que ce soit Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, lorsqu'ils accusent tel ou tel, eh bien, à la sortie, contrairement à ce que dit le président de la République, ces gens, ils sont condamnés, ils ont fouté.
Merci.
Alors que je ne sais pas ce qu'en pensent vos invités.
Eh bien, on va leur poser la question. Un grand merci, Alain. Merci pour cette question. Frédéric Mettezo. Effectivement, la presse n'a pas été épargnée cet après-midi, mais par rapport aux affaires.
Oui, Emmanuel Macron a parlé d'une société de délation. Il a parlé de chasse à l'homme. Ça m'a rappelé mes années adolescentes, mais ça m'a rappelé François Mitterrand qui parlait de l'honneur d'un homme livré aux chiens en parlant de Pierre Bérégovoy après que ce dernier se soit suicidé, se soit donné la mort. Donc effectivement, il a eu des mots très forts, très durs. En tant que journaliste, effectivement, on peut être interpellé parce que le but d'une rédaction comme France Inter, et je vais uniquement parler de la nôtre, qui a reçu ce coup de fil fort aimable, comme vous le savez, de l'éphémère garde des Sceaux François Bayrou, le but de France Inter n'est pas de faire une chasse à l'homme, le but de France Inter est de faire un travail de journaliste, de s'intéresser à tous les partis politiques, de s'intéresser à toutes les strates de la société, que ce soit des entreprises, des syndicats. Donc effectivement, je pense en tant que journaliste que les propos tenus aujourd'hui sont déplacés. Un travail de journaliste, c'est tout sauf de la délation. La délation, c'est anonyme. La délation, ce n'est pas sourcé. La délation, c'est l'impossibilité d'avoir un débat argumenté. Une enquête journalistique, c'est tout le contraire. Et en tout cas, pour ce qui est de France Inter, nous travaillons toujours en vérifiant les sources, en recoupant. Je vous rappelle que c'est France Inter qui a sorti l'affaire Baupin, qui a été classée sans suite uniquement par prescription, mais le parquet a bien reconnu que les faits étaient sans doute constitués. Nous avions à l'époque sollicité toutes les parties prenantes. Donc encore une fois, pour Radio France, c'est un travail sérieux qui est mené.
Voilà pour la défense des journalistes. Brice Teinturier, pas d'interview du 14 juillet cette année. La pensée complexe du président ne se prête pas à l'exercice. On n'arrive pas à l'interroger là. Ça veut dire quoi?
Non mais effectivement, ça traduit bien un autre rapport, je crois, aux médias. Il vient là devant le Congrès, il délivre ce qui est sa vision et ce qu'il compte faire, mais on n'est pas dans un exercice ensuite, comme on l'a eu depuis 40 ans au moment du 14 juillet, d'interview où le président de la République est soumis à une série de questions, de contestations, et il ne se livre pas, il ne veut pas se livrer à cet exercice, en tous les cas, pas actuellement. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que les affaires ne sortent que parce qu'il y a des journalistes pour les faire sortir. S'il n'y a pas cette pression-là et cette investigation qui vient de l'extérieur, ça ne se fait pas tout seul. Et la controverse est quand même quelque chose qui nourrit aussi le débat démocratique. Donc le pouvoir doit être interpellé, il l'est par les oppositions à l'Assemblée, mais il est important également qu'il puisse y avoir un échange devant l'ensemble des Français et qui est conduit en général par des journalistes.
Voilà, pour cette précision, Dominique Rousseau, j'ajoute quand même que Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait carrément supprimer la Cour de justice de la République. Juste un petit mot à ce sujet-là.
Ah, mais écoutez, ça c'est une bonne idée de supprimer cette Cour de justice de la République. Était, je vous le rappelle, une juridiction, il faut mettre des barbelés
d'exception.
Ou des guillemets, puisqu'elle était composée pour moitié de politiques et pour moitié de juges. C'est celle qui a déclaré Christine Lagarde coupable, mais dispensée de peine. C'est une juridiction d'exception, et je pense que pour la responsabilité des ministres, c'est plutôt bien qu'elle soit supprimée.
On repart une dernière fois au standard. Cette fois, c'est Antoine qui est en ligne. Il nous appelle de Montpellier. Bonsoir Antoine.
Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question à deux volets finalement. La première était de savoir si le congrès de cet après-midi n'était pas en quelque sorte anachronique, dans le sens où l'essentiel du discours du président de la République portait sur la moralisation de la vie publique, qui fera l'objet d'un projet de loi porté par un ministre devant les deux assemblées. Et le deuxième volet de ma question, c'était sur le fait que le président s'est exprimé la veille du discours de politique générale du Premier ministre. Et est-ce que finalement, ce n'est pas aussi dans ce sens anachronique, voilà, sur un plan formel,
Jean-Pierre. Merci beaucoup Antoine. Sur le fait qu'il ait parlé avant le Premier ministre, on est justifié, Brice Teinturier, oui. Dominique Rousseau.
Oui, d'abord il l'a complètement expliqué et il n'empiète pas, je crois, sur le contenu de ce que le Premier ministre...
Il n'est pas rentré dans le détail des mesures.
Il est resté moins je crois sur la moralisation de la vie politique que sur le fonctionnement du système politique. Et il a annoncé un certain nombre de choses qui peuvent contribuer fortement à l'évolution, on l'a dit, du fonctionnement de notre système politique. Et puis, M. Rousseau a rappelé que il n'y a pas là une nouveauté non plus, ni quelque chose d'a priori scandaleux dans le fait de s'adresser à la représentation nationale avant le Premier ministre. Mitterrand l'a fait et c'est une pratique traditionnelle qui n'emprunte pas aux États-Unis dans notre pays.
Une petite question sur le style Macron, si vous le permettez, au-delà des annonces qui ont été faites. Ce président aime bien parler culture, philosophie, histoire. On a eu droit à quelques envolées lyriques cet après-midi. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui veut répondre là-dessus ?
Nouveau, non. Enfin, on disait aussi que François Mitterrand était un homme de culture. Et souvenez-vous de cette conférence de presse, je ne sais plus exactement la date, mais de Georges Pompidou parlant du suicide de Gabriel Russier. Et il a cité, je crois, après 15 longues secondes de recueillement, il a cité, je crois, le poème Paul de René Char. René Char ou Paul-Éluard, je ne sais plus. Je crois que c'est plutôt René Char. Donc on a des...
C'est dans la tradition. Quoi.
Ça fait du bien d'avoir des... Il vaut mieux ça que casse-toi, non ?
Christine Thurier.
Il y a quelque chose d'important, je crois, qui se joue dans l'exercice de la fonction présidentielle. Les Français, véritablement, là, depuis une décennie, avec deux types de critiques très différentes, mais avaient le sentiment que la dignité de la fonction présidentielle n'était pas exercée comme elle aurait dû l'être sous Nicolas Sarkozy, et qu'avec François Hollande, on avait un président qui n'était pas justement dans ses envolées lyriques, mais qui était trop dans la boîte à outils. Mmh. Et il est important...
Trop normal, trop dans la technique.
Mmh. Et pas assez dans cette volonté d'expliquer le chemin et le sens. Et je pense que pour les Français, on peut ensuite admirer ou pas ce type de rapport à la fonction présidentielle, mais il est important qu'il y ait cette fierté. Et un président lettré, ça fait partie d'une forme de tradition dans ce pays, qu'on le veuille ou pas.
Dominique Rousseau, vous avez 15 secondes et Frédéric Mettezo aussi. Secondes,
oui.
Et
après, c'est terminé. Beaucoup reproché à François Hollande de ne pas faire de la pédagogie de sa politique. Combien de fois on lui a reproché de ne pas mettre en récit ce qu'il faisait ? Je pense que ce qu'a fait aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est précisément de donner un sens à son mandat et de faire le récit de ce qu'il allait faire. Et ça me paraît important. Je pense qu'on est... Toute société a besoin, comme disent les psychanalystes, d'une institution qui dise ce qui est. Et depuis 10 ans, on n'avait pas une institution qui disait ce qui est. Et là, on l'a eu. Verticalité et horizontalité.
Frédéric Mettezo, 10 secondes.
Oui, aujourd'hui, on avait le discours d'Emmanuel Macron en étant la stratosphère. Demain, discours de politique générale du Premier ministre, retour dans l'atmosphère.
Avec des euros, on parlera peut-être argent demain. Merci beaucoup Frédéric Mettezo, merci Brice Teinturier, merci Dominique Rousseau.
Merci
à tous ceux qui ont appelé ce soir. Merci à Jérémy Younes qui m'a aidé à préparer cette émission. À la réalisation ce soir, Jérôme Boulet à la technique, Loïc Frapsos et Sacha Tropp. Merci aussi aux standardistes de l'émission.